Saint-Jean, donc vous bénéficiez de l'étude que je fais ici. Et le Seigneur va dire au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur n'utilise pas beaucoup de mots ici, mais il y a un message extrêmement important à nous donner. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'espère que je vais être capable de vous transmettre vraiment la profondeur de ce message-là. Il y a une chose qui est quand même assez étonnante aussi, qui m'a surpris, c'est qu'habituellement, dans une prédication, on donne un enseignement, puis vers la fin, on donne une application, hein? Voici comment ça doit s'appliquer. Puis le Seigneur, on dirait que déjà au début du sermon sur la montagne, il donne une application. Parce qu'il a défini c'est qui le citoyen du royaume des cieux. C'est ce qu'on a vu dans les 11 premiers versets, si je ne me trompe pas, les 12 premiers versets. Hein? Il a défini qui est le royaume, qui sont ceux qui sont citoyens du royaume des cieux. Puis maintenant, à ces mêmes gens-là, hein, parce qu'il dit « vous », donc il parle encore à ceux qui s'étaient approché de lui sur la montagne pour l'entendre parler, donc à ses disciples, à ceux qui voulaient se parler. C'est encore à eux qu'il parle. Hein. Puis il va leur dire, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il n'y a rien de plus pratique que ça dans ce qu'il dit. Puis le Seigneur fait une affirmation lorsqu'il dit ça. Il dit, vous êtes. Il affirme ces choses-là de ces gens-là qui sont devant eux, devant lui plutôt. Ensuite, il mentionne une aberration. Il va dire, ben, si le sel il perd sa saveur, ça sert à quoi? Ou si on allume un chandelier puis on le met sous le boisseau, puis le boisseau, c'était juste une boîte de bois. Hein? Donc, si on le cache, cette lumière-là, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, du sel qui ne sale pas, puis une lumière qui n'éclaire pas, ça sert, c'est une aberration. Et ensuite, il va faire ce que j'appelle une attestation parce qu'il va dire à la fin que votre lumière luise devant les hommes. Pourquoi? Pour que votre Père soit glorifié. C'est ce que vous devez être, c'est ce que vous devez attester, c'est ce que vous devez faire pour que la gloire du Père soit manifestée, soit vue. Donc, c'est de cette manière-là, j'aimerais qu'on regarde le texte, puis vous ne serez pas surpris là, s'il ne reste pas beaucoup de temps pour voir les deux derniers points, parce que le cœur du message, c'est l'affirmation. C'est ce que le Seigneur Jésus affirme. Fait que si on arrive à la fin, puis il me semble qu'on est supposé de partir, puis il n'a presque pas vu les derniers points, inquiétez-vous pas. C'est tout à fait normal. Donc, le cœur du message, c'est l'affirmation. Hein? Le Seigneur continue à enseigner ceux qui sont là devant lui, puis il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Puis en disant ça, cette affirmation-là, il donne une nécessité. La nécessité qu'on soit le sel, puis la nécessité qu'on soit la lumière. Pourquoi il donne cette nécessité-là? À cause de la nature du monde. Puis il faut comprendre la nature du monde pour comprendre la nécessité. Donc, on va prendre quelques instants, puis regarder c'est quoi la nature du monde, parce que quand le Seigneur dit « vous êtes le sel de la terre », il parle de où ce qu'on est aujourd'hui, où ce qu'on vit sur cette terre-là. Puis quand le Seigneur dit « vous êtes la lumière du monde », mais il parle dans le monde dans lequel on vit. Donc, il y a cette nécessité-là d'être la lumière, la nécessité-là d'être le sel, à cause de la nature du monde dans lequel on vit. Puis la Bible, elle est claire hein, en ce qui concerne le monde dans lequel on vit. Et la Bible affirme que le monde, il est corrompu à cause du mal. Lors de la chute, l'homme est devenu comme Dieu, effectivement, mais pas dans le même sens qui aurait pensé l'être, mais il est devenu comme Dieu en connaissant le bien et le mal. Avant, il n'y avait pas cette connaissance-là du bien et du mal. C'était l'innocence, il vivait en relation avec Dieu. Mais lorsqu'il a, l'homme a péché, Adam et Ève ont péché, ils ont connu le bien et le mal. Puis malheureusement, on voit rapidement que l'homme a commencé à agir mal. Déjà, Genèse 4, verset 8, Caïn tue son frère Abel parce qu'il est jaloux de lui, parce qu'Abel a fait un sacrifice que Dieu a agréé, puis Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Genèse 6, on a déjà là, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Puis c'est la raison pourquoi Dieu a détruit tous les hommes, sauf Noé et sa famille. On pourrait poursuivre les exemples. Je donne juste un dernier, les frères de Joseph, qui étaient jaloux parce que leur père préférait Joseph. Puis, comment je cherche le mot, là, mais il en prenait plus soin que les autres. Il avait donné une belle tunique, puis les frères sont jaloux, puis décident de le tuer. Finalement, le tue pas, mais le vend comme esclave en Égypte. Puis c'était tout prévu de Dieu. Hein? Dieu est capable de changer le mal en bien. C'est seul Dieu est capable de faire ça. Parce que finalement, Joseph a permis que, à la famine à venir, que pas seulement ses frères et son père soient nourris, mais que les gens passent à travers la famine. Mais lorsque les frères ont constaté que leur père était mort, ils ont eu peur. Hein? Ils ont eu peur que Joseph se venge. Puis Joseph leur répond avec confiance, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien. On a encore là un exemple du monde qui est mal. L'homme est porté au mal. C'est le verdict que Paul donne dans Romains 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toutes sortes d'injustices. Puis il en donne toute une liste, puis entre autres, il dit que les hommes sont ingénieux au mal. Ingénieux au mal. La méchanceté naturelle de l'homme est affirmée par le Seigneur Jésus dans Matthieu 7, 11. Il va dire, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Puis ce verset-là, il est intéressant parce que le Seigneur reconnaît la méchanceté de l'homme, la méchanceté du cœur de l'homme, puis il dit, malgré cette méchanceté-là, vous, quand même, ne donnez pas de mauvaises choses à vos enfants. Et puis, dans Romains, c'est quand même mentionné que la loi de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme. Et puis, l'homme n'est jamais aussi méchant qu'il pourrait l'être. Il y a quand même une intervention, la loi de Dieu dans le cœur de l'homme, qui peut empêcher les hommes d'être aussi méchants qu'ils pourraient l'être si Dieu laisserait les gens aller à eux-mêmes. Mais la méchanceté est dans le cœur de l'homme et le mal est dans le monde. Et puis le monde n'est pas seulement corrompu à cause du mal, mais le monde aussi est dans les ténèbres spirituelles. Vous savez, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Puis c'est les ténèbres, c'est l'état naturel. S'il n'y a pas le soleil, il fait noir. Donc, l'état naturel, quand Dieu a créé le monde, c'était la noirceur. La première chose, la première parole de Dieu qu'on a dans Genèse, c'est quoi? Dieu dit que la lumière soit. Jean va écrire dans sa première épître que Dieu est lumière. Puis en parlant du Seigneur Jésus, il va dire en elle, la parole incarnée, le Seigneur Jésus lui-même était la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc, l'état naturel de l'homme, c'est d'être spirituellement dans les ténèbres. C'est pour ça que Dieu est imagé comme la lumière. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, Jean va nous dire qu'il était que le Seigneur était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il poursuit au verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde ne l'a point connue. » Le monde n'a point connu la lumière, le monde n'a point reçu la lumière. Puis le Seigneur va expliquer dans l'entretien à Nicodème pourquoi c'est comme ça dans Jean 3. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est-à-dire Seigneur Jésus, Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, pourquoi le Seigneur dit que nous devons être le sel et la lumière? Mais c'est à cause de la déchéance du monde dans lequel on vit. C'est parce que le monde est dans les ténèbres. Et puis, il ne faut pas essayer de se convaincre que le monde n'est pas si pire que ça. Des fois, on se dit ça, c'est pas si pire que ça. Non, c'est pire que ça. Justement, quand je faisais cette étude-là, puis que, là, deux semaines, je le donnais à l'Assemblée à Saint-Jean, dans la semaine avant, il y a eu le terrible méfait à Laval où est-ce qu'un homme est entré dans la garderie. De plus, même, il faut vraiment concevoir que plus le monde va se détourner du christianisme qui était dans notre société avant, tu sais, bien, plus le monde va être dans les ténèbres. Puis plus le monde va être dans les ténèbres, plus ça va devenir pire que ça. Et c'est à cause de cette réalité-là qu'on doit être la lumière du monde puis qu'on doit être le sel de la terre. Et vous savez, c'est dans ce même monde-là qu'on vit. Il y a des branches du christianisme, des fois, qui ont essayé de se retirer du monde, hein, des gens qui sont allés dans des monastères, puis de se couper du monde. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas de nous couper du monde. On vit dans ce monde-là. Ce n'est pas notre destinée finale, ce n'est pas notre résidence permanente, mais pendant qu'on est ici sur cette terre, on vit dans ce monde-là. Et puis, le Seigneur nous demande d'être le sel de la terre puis la lumière dans ce monde-là. Et d'ailleurs, dans Jean 17, 15, le Seigneur, dans cette prière, cette bête prière-là, il va dire « Je ne te prie pas de les ôter du monde » en parlant à Dieu, son Père, mais de les préserver du mal. Le Seigneur ne nous demande pas, n'a pas demandé qu'on soit ôté du monde automatiquement la journée qu'on s'est converti ou à tout autre moment, mais le Seigneur prie pour qu'on soit préserver du mal, puis qu'on soit une influence dans le monde dans lequel on vit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être le sel de la terre et la lumière du monde? C'est la question principale, en fait. Hein? Comment sommes-nous le sel et la lumière dans ce monde? Pour répondre à ça, on va considérer premièrement le croyant comme étant le sel de la terre, parce que c'est un enseignement parallèle un petit peu. Le Seigneur va prendre l'image du sel, va prendre l'image de la lumière, puis c'est un enseignement qui est un peu, tu sais, il redit un peu la même chose, malgré qu'il y a des différences entre les deux, vous avez le remarqué. Mais premièrement, le Seigneur dit qu'on est le sel de la terre. Quand on regarde les commentateurs, il y a plusieurs raisons qui sont données que les commentateurs nous disent pourquoi le Seigneur utilise cette image-là. Je vais vous en mentionner quelques-unes, mais je vais finir par celle-là que je pense, l'image que le Seigneur veut qu'on retienne dans son enseignement. Bon, une des choses qui est dite, c'est que le sel est blanc. Donc, c'est une image de la vie de pureté du croyant. Hein, on doit vivre une vie pure, on doit être appelé à vivre une vie pure. C'est ce que le chrétien doit aspirer, puis je veux dire, c'est pas faux. Hein, c'est ce que le Seigneur nous demande de marcher dans ses pas. Mais l'image avec le sel de la terre est un petit peu... Le parallèle est plus difficile à faire. Je pense pas le Seigneur faisait référence ici. Le sel donne la saveur. D'ailleurs, Job 6:6, c'est écrit « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? » Ça donne la saveur. On peut trouver d'autres moyens maintenant d'assaisonner nos aliments, mais souvent... C'est un incontournable. On va assaisonner nos aliments avec du sel pour donner de la saveur. Donc, certains vont dire que le croyant doit donner le goût au monde d'être croyant. Puis dans un fait, j'espère que lorsque les gens nous voient vivre, qu'ils voient quelque chose en nous d'attrayant, mais pas tout le temps. C'est pas toujours attrayant parce qu'on va leur démontrer où on va par nos vies, sûrement leur dire qu'ils sont loin de Dieu puis qu'ils sont loin de vivre selon ce que Dieu veut. Puis c'est un peu l'idée que Paul donne dans son épître, la deuxième épître aux Corinthiens. Il dit, nous, en effet, Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort et aux autres donnant la mort et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Fait que ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'on est un parfum, tu sais, on dégage quelque chose en ce qui concerne Dieu. Mais pour certains, ça ne sent pas bon. Ce n'est pas un bon parfum. Pour d'autres, ça sent bon. Et vous savez, l'Évangile qu'on annonce, c'est premièrement une mauvaise nouvelle avant d'être une bonne nouvelle. On ne peut pas venir à l'Évangile, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas reconnu qu'on est perdu, séparé de Dieu à cause du péché. Ça, ce n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant à entendre. Mais c'est fondamental, si on veut venir à Dieu, de reconnaître qu'on est séparé de Dieu à cause de nos péchés. Donc, c'est effectivement une mauvaise nouvelle avant d'être une bonne nouvelle. Donc, qu'on donne de la saveur, je suis prêt à accepter cette image-là, mais je ne pense pas que c'est une image qui est 100% valable dans le contexte de l'étude que l'on fait. Voici ce que le Seigneur veut enseigner. Il dit, le sel, à cette époque-là, avait une grande valeur. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen de préserver la nourriture. Si on voulait préserver notre nourriture, on salait la nourriture. On avait une pièce de viande, on voulait la garder un certain temps. C'était un pays chaud. Hein? Donc, on l'aspergeait ou on le frottait de sel et le sel empêchait la nourriture de se détériorer pour un certain temps. C'est sûr que ce n'est pas ad vitam aeternam, mais ça c'était utilisé pour préserver la nourriture. Aujourd'hui, on a nos frigidaires, on a nos congélateurs, on a d'autres alternatives, malgré que le sel est encore utilisé aujourd'hui pour préserver la nourriture, mais des fois beaucoup trop. Il y a certains aliments qui sont énormément salés. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils restent en tablette longtemps pour que les gens aient le temps de les acheter et de les consommer. Et ça devient une problématique pour la santé de certains. Et de par sa nature, de par sa composition, c'est une des caractéristiques du sel d'empêcher la détérioration de la nourriture. Donc, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, puis ainsi il est en train de nous dire qu'on est ce sel-là qui retarde la corruption dans le monde. Comment? Bien, lorsqu'on vit selon les caractéristiques des béatitudes, lorsqu'on marche de la manière que le Seigneur Jésus nous a enseigné dans ce qu'il a dit précédemment, lorsqu'on marche de la manière que notre maître a marché, on va faire une différence dans le monde, on va avoir un impact dans notre monde. Naturellement, le sel, pour qu'il soit efficace, il doit se frotter à la nourriture. Hein? Il doit imprégner la nourriture. C'est ça, pour ça, tout à l'heure que je disais, que on vit dans ce monde-là dans lequel on est, puis on ne doit pas vivre, tu sais, on n'est pas appelé à vivre retiré dans notre petit monde à nous. Le Seigneur nous dit qu'on est le sel de la terre parmi ce monde-là, puis on doit s'y frotter. Mais le monde ne doit pas nous influencer. C'est nous qui devons être une influence sur le monde. Puis naturellement, ça, c'est malheureusement un danger. Le sel aussi, à cette époque-là, on l'utilisait pour soigner, merci beaucoup, c'est le mot que je cherchais, pour soigner des blessures. Hein. Ça l'empêchait le mal de se propager, mais je peux m'imaginer que lorsqu'on mettait du sel sur une blessure, ça ne devait pas être le fun, mais c'était nécessaire. C'était une manière de le faire. Bon, aujourd'hui, il y a certains aussi, des fois, le médecin nous traite, puis ça ne fait pas du bien, mais ça l'aidait à enrayer le mal puis à guérir les blessures. Et des fois, on va dire des choses, on va affirmer des choses comme croyants parce qu'on les croit. Puis les gens n'aimeront pas ça, mais c'est la vérité qui doit être affirmée. John Stott, il écrit dans ce commentaire que le Seigneur n'a pas dit « Vous êtes le miel de la terre ». Le Seigneur a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Il y a toute une différence entre le miel et le sel. Alors, moi, cuillerée de miel, donnez-moi-le, je suis content. Cuillerée de sel, ouf, je ne pense pas que je vais être important. Donc, c'est important, comme croyant, d'affirmer les vérités comme la vie, c'est sacré. Donc, l'avortement, c'est mal. L'euthanasie, hein, l'aide à mourir, c'est mal. On le présente comme bien dans le sens que quelqu'un souffre et on veut l'aider, mais c'est mal. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui ôte la vie. D'affirmer que l'être humain est créé homme et femme, puis il n'y a pas d'autres options, donc que le mariage est entre un homme et une femme exclusivement. Donc, on affirme le mariage dans un premier temps, parce que les gens ne se marient plus. Puis on affirme que c'est un mariage, c'est entre un homme et une femme. Et les églises ont beaucoup de difficultés avec ça. On veut être inclusif. C'est la mode aujourd'hui de penser d'être inclusif. Donc, on ne veut pas rejeter les gens qui vivent ou qui pensent que c'est bien de vivre ces relations-là, mais la Bible dit que c'est mal. Dernièrement, je lisais que l'Église anglicane continue à dire qu'ils ne célébreront pas de mariage entre personnes de même sexe, mais vont les bénir. Je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, probablement, mais c'est leur manière à eux de dire on ne peut pas marier des gens de même sexe, mais on ne veut pas vous rejeter. Écoutez, c'est comme je disais tout à l'heure, les gens, on va être obligé à un moment donné, comme croyants, de dire des choses que les gens n'aimeront pas entendre, mais c'est la vérité, puis ils ont besoin de la vérité, le monde a besoin de la vérité. Sur un plan plus personnel, on est le sel lorsqu'on ne participe pas avec le monde sur ce que Dieu désapprouve. Une des choses que je détestais le plus, puis heureusement, ça ne m'a pas arrivé souvent, c'est d'être au travail, puis quelqu'un raconte une farce mal placée. Je ne peux pas rire sur une farce mal placée. Je ne peux pas rire. Je ne peux pas rire ça. Donc, c'est sûr que ça met les gens mal à l'aise, mais puis ça me met mal à l'aise, mais tant pis. Je ne suis pas là pour mettre les gens à l'aise. Je suis là pour vivre comme croyant. Enfin, on doit réaliser que le monde a besoin de nous. C'est ce que le Seigneur dit ici, en disant « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » C'est parce que le monde a besoin du croyant, a besoin de la vérité, a besoin qu'on vive notre vie chrétienne puis qu'on affirme les vérités biblique. Puis on va être persécuté pour ça. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit au verset 11 et 12. Hein? « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On va être persécuté pour ça. Mais c'est ce que le Seigneur nous appelle. Vous savez, les versets 10 et 11 indiquent l'attitude du monde vis-à-vis le croyant, tandis que les versets 13 et 16 indiquent notre attitude vis-à-vis le monde. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que malgré que le monde va nous persécuter, nous, on est appelés à servir le monde comme sel et lumière. Le sel, c'est l'aspect négatif de l'enseignement du Seigneur Jésus. Le sel, ça l'empêche de détériorer, tandis que la lumière, c'est l'aspect positif. Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? Elle dissipe les ténèbres. Lorsqu'on arrive dans une pièce et il fait noir, on a juste à ouvrir la lumière, puis oups, là, on voit. Avant, on ne voyait pas, puis oups, on voit. Et le Seigneur va dire que le croyant, il est la lumière du monde. Premièrement, on est la lumière du monde parce qu'on permet de voir ce qui n'est pas possible de voir dans la noirceur. Donc, la lumière, elle expose la réalité, la vérité. Puis Dieu nous éclaire comment? Il nous éclaire par sa parole. Il nous donne une vision claire du monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça qu'on est capable de dire que les gens naissent hommes ou femmes. Aujourd'hui, ça a l'air qu'on peut naître ce qu'on veut. On peut, Puis une chose aberrante, c'est que si un homme va dire, ben moi, je me vois comme femme, on le met une prison de femme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? Tu sais, mais c'est complètement déréglé. Ça ne tient pas la route. C'est ce que la Bible affirme, que ça ne tient pas la route. Puis on le sait que ça ne tient pas la route. Puis on sait pourquoi ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce que Dieu nous a créés hommes et femmes. Puis il n'y a pas d'autres alternatives, malgré que aujourd'hui, je vais faire mon inscription à l'Ordre des ingénieurs, puis ils vont me donner, si je me rappelle bien, la possibilité de dire homme, femme ou autre. Puis, je veux dire, sur nos documents, étonnons-nous pas bientôt que sur nos documents, on va pouvoir mettre autre. C'est complètement faux. Donc, la parole de Dieu, c'est notre lumière qui nous permet d'avoir une vision claire du monde dans lequel on vit. Puis ça, c'est important de réaliser ça. Avec cette idée de lumière-là, le Seigneur dit quelque chose d'important dans Luc 11, 34 et 35. Il dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. » Ici, la lumière, l'image de la lumière, ici, dans ce passage-là, c'est la parole de Dieu. Donc, la lumière est perçue par l'œil. Si notre œil est en mauvais état, on ne perçoit pas bien la lumière. Donc, on doit laisser la parole de Dieu nous éclairer, nous enseigner, nous diriger pour qu'on ne marche pas comme les gens dans les ténèbres. C'est fondamental pour le croyant de se nourrir, puis d'approfondir, puis de connaître ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est un incontournable. Sinon, on va être entraîné comme toutes les autres sur ce qui est dit dans notre monde, hein, parce qu'on vit dans ce monde-là. Donc, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de s'en nourrir, de la méditer, si vous êtes possible, je vous encourage même de l'étudier par vous-même puis d'être enseigné par la parole de Dieu. Mais principalement, nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde, vous allez tous d'accord avec moi, vous avez eu M. Fortin ici assez longtemps pour dire que le monde a besoin de la lumière de l'Évangile. On a besoin d'annoncer l'Évangile, c'est fondamental. Mais le monde aussi a besoin de nous voir vivre comme lumière. A besoin que nous marchions comme lumière parce que nous sommes dans le Seigneur Jésus. Paul va écrire, puis je ne fais pas ça souvent, là, mais Paul fait Éphésiens 5, tournez avec moi, parce que Paul fait un enseignement parallèle dans Éphésiens 5 qui ressemble exactement à ce que le Seigneur Jésus est en train de dire dans ces versets-là. Éphésiens 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Il y a quelqu'un qui a utilisé l'image suivante, il dit « Le Seigneur, c'est le soleil et nous, on est la lune. » Donc, on reflète la lumière du Seigneur comme la lune reflète la lumière du soleil. Et quand c'est pleine lune, ben, on a des nuits plus éclairées que quand il n'y a pas de lune, hein, quand la lune est cachée. Elle est toujours là, mais elle est juste pas dans un angle pour refléter la lumière du soleil. Donc, je trouvais l'image intéressante. Puis c'est ce que Paul nous dit ici, marcher comme des enfants de lumière, marcher comme le Seigneur Jésus, qui est la lumière. Puis il poursuit au verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Cette lumière-là, elle se manifeste concrètement. Pas seulement dans ce que l'on croit, dans ce que l'on dit, mais aussi dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. Puis il va donner cette importance-là au verset 10. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Je ne sais pas si je vais offusquer les gens si ce matin, là, mais comme croyant, est-ce qu'on a le courage de condamner ce que le monde croit comme juste? On en a-tu même le mandat? Peut-être pas individuellement, on ne se sent pas, tu sais, des gens qui ont toute la capacité d'argumenter comme notre monde, mais comme croyants, comme Église de Jésus-Christ, je pense qu'on a les ressources pour être capable de dire au monde, c'est mal, ce n'est pas ce qu'on doit faire, ce n'est pas ce qu'on doit croire, ce n'est pas... Ils nous écouteront peut-être pas, mais je pense qu'on a le devoir de le faire personnellement. Puis c'est ce que Paul dit ici, mais plutôt condamnez-les. Puis invariablement, la lumière expose ce qui est fait dans les ténèbres. Il va poursuivre au verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Donc, d'une manière naturelle, la lumière, elle éclaire, elle dévoile, elle montre ce qui est fait dans la noirceur de notre monde. C'est pour ça que le Seigneur va dire qu'une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. On ne doit pas se cacher, on est des villes sur une montagne. On ne doit pas avoir peur d'être lumière, on doit se manifester comme lumière pour que les gens nous voient parce que le monde en a besoin. Puis notre monde a besoin qu'on soit lumière. Vous savez, le sel, il agit sans qu'on le voit. On ne voit pas le sel agir, mais il agit. Et le sel, c'est un peu comme notre caractère, qui on est à l'intérieur de nous. Puis ça doit agir. Puis la lumière, elle expose. La lumière, on voit quand elle agit. Hein? Elle expose des choses. C'est un peu comme la manifestation de notre caractère. Donc, j'aime l'image que le sel, c'est qui on est. Puis la lumière, c'est ce que l'on manifeste, ce que l'on est. Maintenant, il y a une chose importante à comprendre dans ce que le Seigneur dit ici, dans cette affirmation, lorsqu'il s'adresse à nous. Il va dire « vous êtes ». Et j'ai réalisé qu'on est la seule source de lumière pour ce monde. Il n'y en a pas d'autre source de lumière. Personne sauf les croyants ont la vérité pour l'affirmer au monde. On est la seule lumière pour ce monde dans les ténèbres. Comme on est le seul sel pour ce monde corrompu. Il n'y en a pas d'autre. Personne ne peut dire, personne ne peut faire ce que nous, on peut dire et faire. Et j'aime beaucoup ce que Lloyd Jones dit dans ce commentaire. Il dit ceci, il dit « Vous, dit notre Seigneur en regardant, ces simples gens qui s'étaient réunis pour l'écouter, il dit, vous, ces gens tout à fait insignifiants du point de vue du monde, vous êtes la lumière du monde. C'est l'une de ces déclarations qui devrait toujours avoir pour effet de nous faire lever la tête et de nous faire réaliser une fois de plus à quel point il est remarquable et glorieux d'être chrétien. Donc, nous, ces simples gens qui... Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu qu'on est pauvre en esprit, qu'on était perdu spirituellement, parce que nous sommes affligés par notre péché, d'où avons faim et soif de justice, sommes miséricordieux, avons le cœur pur, qui cherche à procurer la paix et qui accepte d'être persécuté. J'ai tout simplement dit ce qu'on avait vu dans les versets précédents. Donc, c'est notre caractère, c'est qui nous sommes en premier lieu qui va avoir une influence dans ce monde. Puis Pierre plutôt exprime un peu la même idée dans sa deuxième épître qu'il a écrit au verset 9, au chapitre 2, verset 9. Il va dire, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que quoi? Vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est ça le « vous » ici, là, hein, que Pierre rattrape aussi pour nous donner dans cette épître-là, puis à ceux à qui il écrivait. C'est un « vous » individuel, parce que le Seigneur s'adressait à ceux qui étaient assis devant lui, comme il s'adresse dans sa parole à nous individuellement, mais c'est un « vous » collectif aussi. L'Église doit être le sel et la lumière dans ce monde. Puis il y a deux dangers. Le premier, John Stott l'exprime bien, il dit, La plus grande tragédie de l'Église tout au long de son histoire mouvementée a probablement été sa tendance constante à se conformer à la culture dominante au lieu de développer une contre-culture chrétienne. J'aime cette expression-là qui utilise une contre-culture chrétienne. Malheureusement, des fois, on va être contre-culture dans ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on croit, mais c'est important qu'on soit cette contre-culture-là. La deuxième danger, c'est d'être trop bien préoccupé de notre bien-être comme Église. On finit qu'on est bien entre nous. C'est vrai? On est bien entre nous. Puis on oublie que le Seigneur nous demande l'inconvénient d'être le sel puis la lumière, parce que ça nous dérange. Être le sel puis la lumière, c'est dérangeant. Ça nous sort de notre petit confort, de notre petit bien-être, de notre petite joie d'être parmi nous, entre nous. Puis ça, je ne veux pas dire que c'est mauvais. Comprenez-moi bien, tu sais, je veux dire, on s'encourage les uns les autres, puis on s'entraide, puis c'est tout à fait ce que la parole de Dieu nous dit. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à seulement cela. Il nous appelle à être le sel de la terre puis la lumière du monde. Bon, ça nous amène à l'aberration. Si le sel perd sa saveur, on pourrait dire si le sel perd sa force, bien, il n'est plus utile. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que le sel raffiné qu'on a aujourd'hui, là, ça ne perd jamais sa saveur. Vous mettez du sel dans l'eau, vous ne le voyez pas, mais vous le buvez puis il est là. Si vous achetez un aliment trop salé ou vous salez trop vos aliments, bien, c'est bien de valeur, mais vous allez le manger, puis ça goûte le sel. Le sel, ça goûte toujours le sel. Maintenant, comment est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Bien, le sel perd sa saveur lorsqu'il y a des impuretés dans le sel. Et à cette époque-là, lorsque le Seigneur Jésus parle, c'est dans la région de la mer morte. La mer morte, c'est une mer où est-ce que l'eau coule dans ce plan d'eau-là. Elle est morte parce qu'elle ne sort jamais l'eau. Il y a, tu sais, souvent un lac, il y a une source qui rentre, puis ça ressort. Puis ça Mais la mer morte, ça ne ressort jamais. Donc, comment est-ce qu'elle finit par ne pas déborder? Bien, elle s'évapore. C'est par évaporation. Mais c'est une eau salée. Donc, si l'eau s'évapore, lui, le sel ne s'évapore pas. C'est pour ça que vous voyez des images que lorsqu'on est dans la mer morte, on flotte quasiment naturellement parce que la densité du sel est trop forte pour qu'on cale. Donc, on était dans cette mer morte-là, puis tout ce qui est alentour est salé. Donc, on prenait dans les falaises, on pouvait, tu sais, aller chercher le sel. Mais une des problématiques de ce sel-là, c'est qu'il n'était pas pur. Puis même, j'ai lu qu'il pouvait être, entre autres, mélangé avec du gypse, avec des impuretés, autrement dit. Puis s'il y avait trop d'impuretés, bien, il ne goûtait plus du sel parce qu'il y a trop d'impuretés dedans. Donc, s'il ne goûtait plus, puis il n'avait plus sa fonction, mais qu'est-ce qu'on faisait? Bien, Seigneur Jésus le dit, on le jetait dans un chemin. On ne le jetait même pas dans un champ ou ailleurs, on le jetait sur la route. Puis les gens pilaient dessus. Donc, il ne servait à rien. Mais pour le croyant, qu'est-ce qui peut empêcher ou lui faire perdre sa saveur? La même chose, les impuretés. Lorsque le péché dans la vie du croyant est là, c'est une impureté qui le rend inefficace et inutile. On doit se garder pur, on doit se garder dans une relation avec le Seigneur, on doit marcher avec lui. Puis si on se laisse influencer par le monde, comme je disais tout à l'heure, puis on se laisse imprégner, bien, puis l'impureté entre dans nos vies par le péché, c'est sûr qu'on va perdre notre efficacité. Puis le Seigneur va poser la question, mais comment est-ce qu'on lui rend la saveur? Comment est-ce qu'on peut rendre la saveur au sel? Je ne sais pas à cette époque-là s'il était capable de le faire, d'enlever des impuretés. Aujourd'hui, on va raffiner le sel pour être sûr qu'il n'y a pas d'impureté dedans. C'est comme ça qu'on pouvait redonner la saveur au sel. J'ai comme l'impression qu'à cette époque-là, ce n'était pas possible. Donc, le sel, on ne me rajoutait pas plus de sel pour que le sel soit plus pur. Ça ne marche pas non plus. Donc, c'est la même chose, tu sais, pour le disciple. Comment est-ce que le disciple peut reprendre sa saveur? Bien, c'est en se gardant du mal. Et un disciple, c'est un disciple comme le sel est le sel. Puis si un disciple ne vit plus une vie de disciple, c'est une aberration comme le sel, avec ses impuretés qui peuvent être utilisées, c'est une aberration. Ça ne marche pas, ça ne donne rien, on le jette. C'est important. Cacher une lumière aussi sous un meuble, c'est une absurdité. Je veux dire, toutes vos maisons, puis ici, on met les lumières au plafond parce qu'on veut que ça ait l'air. À la limite, on les met au haut des murs quand on veut avoir une certaine ambiance ou que ça regarde, mais la lumière est toujours mise en hauteur parce qu'on veut que ça l'éclaire. Si on la cache, c'est une aberration. Ça ne donne rien d'allumer une lampe et de la cacher. Ça ne tient pas la route. Elle doit éclairer. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est la fonction du sel que de préserver, puis c'est la fonction de la lumière que de révéler. Sinon, c'est une aberration. Ça ne tient pas la route. Ce qui nous amène à l'attestation, on a compris l'affirmation qu'on est le sel de la terre puis qu'on est la lumière du monde, on a compris l'aberration. Hein. Du sel sans saveur, c'est inutile. Une lumière cachée, ce n'est pas utile non plus. Donc, ça nous amène à l'attestation, nous devons éclairer. Attester que nous sommes la lumière, dans quel but? Afin que notre Père soit glorifié. Comment est-ce qu'on va le faire? En étant des lumières qui brillent dans le monde, puis éclaire les hommes, puis en étant le sel qui donne, qui préserve, et non ce sel-là que les hommes pilent dessus. C'est intéressant parce que dans le passage, j'ai parlé des hommes deux fois. La première, c'est que la lumière luise devant les hommes, tandis que l'autre, c'est que les hommes pilent sur le sel parce qu'il n'y a plus de saveur. Donc, on est un ou l'autre. Hein? On est ceux qui éclairent ou on est ceux qu'on se fait piétiner dessus. Maintenant, remarquez le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur, c'est quoi? Au verset 16, c'est que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça, c'est le commandement. Le but de ça, c'est afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Maintenant, je ne sais pas, moi, si vous êtes comme moi, mais comme chrétien évangélique, des fois, on est un petit peu allergique à ce mot « bonnes œuvres-là », parce que, surtout ceux qui ont été élevés dans le catholicisme, je suis encore de ceux, peut-être des derniers, là, baby boomers, qui ont vécu le catholicisme dans les années 60. Puis on n'aime pas trop ce mot « bonnes œuvres-là » parce que l'Évangile, ça ne s'acquiert pas par nos bonnes œuvres. C'est tout à fait vrai. Puis une des faussetés de la religion catholique, c'est de dire qu'on peut être sauvé éventuellement si on a fait assez de bonnes œuvres, ce qui est complètement faux, puis n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Puis ça ne sauvera personne, les bonnes œuvres. Mais pourtant, le Seigneur dit ici qu'on doit être la lumière du monde afin qu'il voit nos bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous êtes encore d'Éphésiens, mais pour se convaincre de ce que le Seigneur est en train de dire ici, Éphésiens 2, 8, 10, je pense même la plupart d'entre nous seraient capables de le citer par cœur, mais on va quand même le lire. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres. » Donc, c'est assez affirmatif, c'est clair, c'est affirmatif, ce n'est pas par les œuvres. « Afin que personne ne se glorifie. » Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Ça, c'est clair. Hein? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. 2 Timothée 3, 16 nous donne l'utilité de l'Écriture. Pourquoi elle est bonne? Puis elle va nous dire à la fin du passage, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, on ne peut pas dissocier notre marche chrétienne des bonnes œuvres. C'est exactement pourquoi le Seigneur Jésus nous a sauvés. C'est exactement pourquoi l'Écriture est là, pour nous former. Pourquoi? Pour qu'on soit propre à de bonnes œuvres. Donc, ce que le Seigneur Jésus ici est en train de dire, c'est pas le commandement de faire des bonnes œuvres. Ce n'est pas ce commandement-là que le Seigneur Jésus donne, parce que c'est la nature du croyant que d'agir selon ce que le Seigneur Jésus a agi, qui va faire en sorte qu'on va faire ces bonnes œuvres-là que Dieu nous a préparées d'avance. Donc, le commandement du Seigneur n'est pas ça. Le commandement du Seigneur, c'est de dire, de les faire de telle manière que ce soit vu. C'est ce que je lis au verset 16, si vous êtes d'accord, hein, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et dans quel but il doit être ces bonnes œuvres-là? Ben, ce n'est pas prétentieux. On ne le fait pas parce qu'on veut être prétentieux. On n'a pas cette pensée-là d'être prétentieux. Notre but de faire ça, d'obéir à ce commandement-là, c'est que les hommes glorifie votre Père qui est dans les cieux. Dans Jean 15, verset 8, le Seigneur va dire, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le but du croyant, c'est de glorifier Dieu. C'est notre but, c'est notre raison d'être, c'est notre désir comme croyant. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 12, va écrire ceci, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on va être persécuté comme croyant, mais nous, on a à vivre cette vie-là. Pourquoi? Pour que les gens remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour qui va les visiter. Donc, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Juste comme conclusion, j'aimerais peut-être, si vous le permettez, j'espère que je n'exagère pas sur vous ce matin, là, mais durant la COVID-19, il y a un organisme qui s'appelle Samaritan Purse, la bourse du Samaritain, je ne sais pas si où ce qu'on fait les boîtes de Noël, mais cet organisme-là est beaucoup plus grand que les boîtes de Noël, puis c'est un organisme évangélique qui va ici aller aider quand il y a un besoin. Et durant l'épidémie, ils sont allés aider à New York pour aider parce qu'il y avait l'épidémie avait quand même un impact plus grand dans cette ville-là, puis il y avait des besoins au niveau médical. Fait qu'il y a des gens de Samaritan Purse qui sont allés mettre des tentes puis aider les gens-là, soigner les gens-là durant l'épidémie. Maintenant, eux, ils ont une profession de foi. L'organisme, tous ceux qui travaillent pour Samaritan Purse doivent adhérer, signer, je ne sais pas, mais au moins adhérer à leur profession de foi qui dit ceci. Il dit, Dieu, dans leur profession de foi, c'est affirmé que Dieu a institué le mariage monogame entre un homme et une femme comme le fondement de la famille et la structure de base de la société. Pour cette raison, nous croyons que le mariage est exclusivement l'union d'un homme génétique et d'une femme génétique. Maintenant, New York, il semblerait, que j'ai lu, est reconnue comme la ville la plus accueillante pour le milieu homosexuel. Donc, ils ont été critiqués. Entre autres, il y a un monsieur Walker qui est militant pour une coalition là, de la fierté gay qui a dit ceci, il dit « Comment ce groupe a-t-il pu envisager d'apporter sa haine et son vitriol dans notre ville à un moment de crise où notre peuple lutte contre la pandémie? » Wow! On vient aider, puis on se fait critiquer. Samaritan Purse, ils ont fait un communiqué de presse, puis je vous lis juste quelques lignes. Il dit bien que notre croyance scripturaire dans le mariage entre un homme et une femme semble particulièrement offensant pour le représentant de ces trois groupes, parce que ce n'était pas seulement ce groupe-là, il y avait d'autres groupes qui avaient critiqué. Nous ne pensons pas que ce soit le moment ou le lieu pour mener ce débat. Samaritan Purse est un organisme de secours privé résolument chrétien, financé presque entièrement par des personnes du monde entier qui partagent notre passion pour l'aide aux victimes de la guerre, des maladies, des catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution, et ce, au nom de Jésus. Il ne semble pas judicieux d'attaquer notre conviction religieuse sur le mariage au moment même où des milliers de New Yorkais luttent pour leur vie, où des dizaines de travailleurs de Samaritan Purse mettent leur vie en danger pour fournir des soins médicaux essentiels. Il est vrai que depuis 50 ans, nous demandons à notre personnel rémunéré de souscrire à une déclaration de foi, mais nous n'avons jamais demandé aux millions de personnes que nous avons servies de souscrire à quoi que ce soit. J'ai trouvé ça quand même assez belle image de ça, de ce qu'ils ont fait comme étant le sel, la terre puis la lumière du monde. Ils ont gardé leurs convictions religieuses. Ils ont affirmé malgré l'opposition, puis ils ont continué à servir ceux qui avaient besoin d'être servis. Je trouvais que c'était une belle image de ça. Donc, on va prier parce que je pense que j'ai dépassé un peu le temps, excusez-moi. Seigneur, on est vraiment reconnaissant de ta parole. Merci de ces simples passages. Puis c'est quand même surprenant de penser que c'est ce que tu dis à tes disciples. Hein. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On ne se sent pas comme tel, mais c'est ce que tu dis que nous sommes. Et vraiment, on veut prier que tu nous aides à, premièrement, être des disciples engagés, hein, qui marchent dans tes pas. Puis deuxièmement, que l'on puisse vraiment accomplir ce que tu affirmes de nous, que tu nous aides, que tu nous encourages, que tu nous fortifies, que tu nous donne ce que nous avons besoin pour être ce que nous sommes, c'est-à-dire le sel de la terre et la lumière du monde. Puis que notre but dans tout ça soit, oui, le salut des gens, oui, qu'on puisse avoir un impact dans ce monde, mais par-dessus tout, que notre Père céleste puisse être glorifié. Amen.